Voilà, très bien. Écoutez, nous allons reprendre par rapport au programme qui a été annoncé. Donc, il y a une petite modification en raison de l'absence de Baptiste Boé. Les enfants d'enseignants-chercheurs ont des tas de problèmes en ce moment. Mais vous voyez, il y a des hommes comme des femmes qui sont pénalisés. C'est très bien. Je vais donner tout de suite la parole à Joël Lemarec et à François Mérès qui vont nous parler de stratégie et de pratique de documentation à l'ère du numérique. Le titre n'a pas bougé. Très bien. Donc, je vous donne la parole tout de suite pour votre intervention. Voilà, tout est en place.
Je démarre. Alors, juste un petit mot de cette interdisciplinarité, mais juste pour dire que pour ce qui nous concernait, il y a aussi un partage de nos questions, puisque au départ, il y avait donc deux projets, le collectionnisme qui est une question que poursuit depuis longtemps et que traite depuis longtemps François, avec aussi un intérêt pour le patrimoine. Et dans mon cas, en fait, c'est du point de vue des études de sciences, les pratiques des intellectuels au travail. Donc finalement, on a combiné nos deux opérations et on a partagé aussi des enjeux de connaissances qui partaient d'une hypothèse, c'est qu'il y avait des pratiques de collectionnisme chez les intellectuels au travail et que d'un autre point de vue qui est celui du patrimoine aussi, il y a une dimension aussi qui relève des pratiques professionnelles aussi dans les pratiques de collectionnisme. Donc là, on a deux photos impressionnantes, mais qui correspondent, je pense, aussi à ces visions extrêmement spectaculaires qui peuvent disparaître aussi quand elles sont incluses dans les machines, de ce que peuvent donner aussi des accumulations de données, d'objets, de matériel, d'archives, d'informations, etc., de connaissances qui supposent qu'on les classe, qu'on les range, qu'on les archive, qu'on les jette, qu'on les partage. Enfin, toutes choses qui relèvent à la fois justement de problématiques de collectionneurs et de problématiques de travailleurs intellectuels. Alors, travailleurs intellectuels, pour nous, du coup, on les a mis en commun, nos travailleurs intellectuels, puisque on a dans un échantillon de personnes qui se sont prêtées à une étude de leur pratique quotidienne, des conservateurs de musées, des chefs de projet aussi en muséologie, des enseignants-chercheurs et des enseignants, des médiateurs, des chefs de projet aussi. Donc, je reviens là, en fait. Voilà. Alors, les travailleurs intellectuels au quotidien, les travaux précédents, en fait, j'avais fait avec des collègues des études sur des pratiques quotidiennes de bibliothécaires en cours de déménagement physique et d'informatisation des fonds, aussi des travaux sur les bases d'images dans des organismes scientifiques qui aussi, étaient aussi en période de transformation aussi des métiers, des méthodes, des fonds, etc., etc. Et puis, des analyses du quotidien, minute par minute, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, où, en fait, ils faisaient des relevés de tout ce qu'ils faisaient, du matin au soir, pendant une semaine, avec aussi des relevés de tout ce qui se passe dans leur environnement. L'idée, en fait, du point de vue des problématiques de recherche, c'est qu'on peut renouveler les pratiques de connaissance à partir d'une échelle d'observation qui est amplifiée, un peu comme on prend un grossissement qui est plus fort que les études de sciences habituelles, les études de vie, de laboratoire, etc., etc., avec une attention très très forte aux environnements, du coup, matériels, et à tout ce qui peut être des opérations qui impliquent des mises en relation avec autrui ou avec des objets, etc., etc. Donc on passe du point de vue des méthodes. On ne passe pas que par du déclaratif, le déclaratif, c'est ce que l'on a avec des entretiens ou avec des questionnaires, mais on passe aussi beaucoup par l'observation de gestes ou d'environnement ou voilà, vous avez là un geste qui est une personne qui a un PC qui est hérissé de post-it et qui pointe avec son stylo, donc il y a un aspect déictique au plan sémiotique où la personne, elle utilise son stylo. Ça a été aussi des travaux sur langage et travail, sur des chirurgiens au boulot ou qui utilisent leurs outils pour se montrer des choses ou pour les mettre en relation. Et chez les professions intellectuelles, on a foule de petites opérations de mise en relation, un usage constant des post-it, etc., etc., de petits déplacements, enfin, qui passent à l'as si on ne passe que par des entretiens ou par des questionnaires, puisqu'on a des points de vue qui sont déjà des retraitements. Et quand on arrive à ce niveau de grossissement, eh bien, en fait, on découvre aussi des continents sur lesquels s'appuient des habitus. Autre chose aussi, alors les pratiques d'amateurs de théâtre et de l'opéra, enfin, là où c'était des pratiques qui étaient entièrement en ligne, entre guillemets, récemment. Et les résultats, eh bien, en fait, c'est à quel point ces pratiques intellectuelles, enfin, qui sont toutes très réflexives, enfin, actives, en fait, en permanence, une réflexion, un scrupule sur les normes qui organisent nos activités. On en a toujours plein. Enfin, on est toujours porteur d'une hétérogénéité qui peut être aussi l'équivalent d'une interdisciplinarité managériale, l'efficacité scientifique, informatique, patrimoniale aussi. On conserve toujours pour soi, mais aussi pour d'autres. Enfin, communicationnelle, enfin, la valorisation, etc., etc. Et il y a... Dans ces résultats sont apparus foule d'objets discrets, de pratiques infravisibles. Et puis aussi, dans les résultats, il y a l'importance des passages ou des accidents dans les trajectoires temporelles, à l'échelle des carrières ou à l'échelle des projets, puisqu'on travaille énormément en mode projet, et l'importance des déplacements et des déménagements physiques, en fait, qui activent une intense réflexivité dès qu'il y a... On l'a vu avec nous, des déménagements ou des déplacements. Tout de suite, il y a des questions qui se posent, enfin, une objectivation de ce qu'on va être amené à faire. Et une méthode, donc une ethnographie des environnements des intellectuels. Juste sur la photo de droite, c'est parce que ce sont des livres et des livres qu'un bibliothécaire archive. Et à propos de ce grossissement, un livre dans beaucoup d'environnements intellectuels n'est jamais seul, il vient toujours avec beaucoup d'autres mentions, inscriptions, fiches, post-it, notes, etc., etc. Et l'idée aussi, c'est de constituer en unité du travail intellectuel et aussi des unités matérielles de connaissances, non pas des choses qui se présentent à nous sur le marché ou directement, mais des choses qui sont travaillées par nos intellectuels. La méthode... Donc, on a fait appel aussi à une collègue avec qui on travaille souvent dans les musées, une ethnologue indépendante, on lui a fourni, on a élaboré le protocole ensemble. Et donc, on a choisi des travailleurs intellectuels qui pouvaient nous consacrer du temps, donc par le réseau des chercheurs universitaires ou des professionnels d'institutions culturelles. Donc, on est obligé de toute façon de procéder avec des personnes de confiance, en quelque sorte, puisqu'ils nous ouvrent tout. Montre-moi ton bureau. Des entretiens longs, parfois sur 2 jours, des visites des lieux, des enregistrements, des photos. Un matériau extrêmement diversifié, donc où on essaie de mettre sur le même plan, ce qui est très difficile, des livres, des dossiers, des objets et des fichiers. Ce qui est, pour le coup, tu parlais des compétences... Michel, et en fait, il y a vraiment aussi cette orientation culturelle qui nous oblige à donner la même valeur ou la même consistance culturelle à un fichier qu'à un ouvrage, ce qui n'est pas toujours facile, mais là, c'est l'obligation de le faire.
Alors, on va vous présenter essentiellement, je pense, un certain nombre de résultats. Vous avez compris, bien sûr, qu'on est plutôt dans une phase d'enquête exploratoire avec une quinzaine de personnes qui sont plutôt situées, enfin, je pense, tous en Ile-de-France. Il faut quand même le souligner, évidemment, parce qu'un environnement en Ile-de-France, à Paris notamment, ça veut dire un petit environnement, donc un certain nombre de problèmes qui ne se posent pas si vous avez un grand bureau à la fac, plus, etc., etc. En revanche, on a tout de même trouvé des enseignants ou des chercheurs qui avaient un bureau aussi, donc on a regardé les 2 bureaux parfois, etc. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est, je dirais, on pourrait dire 2 figures particulières. Une du collectionneur, on pourrait dire, et puis une autre sur laquelle Joël va revenir. Alors, si vous observez la photo à gauche, c'est une partie de bibliothèque. Alors, vous voyez que c'est une chercheuse qui se situait à Paris. Ce qui est très intéressant, qu'on peut observer, qu'on a trouvé à plusieurs endroits, alors c'est, un, le début évidemment de la logique de collection de livres, de la bibliothèque classique, etc. Et puis évidemment une bibliothèque qui commence un peu à déraper parce qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Et puis aussi, et ça c'est un des points intéressants, ce sont toujours des bibliothèques garnies avec des objets, avec des photos, avec etc. Et ça c'est très intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas que la matière informationnelle évidemment, il y a aussi tout un espace esthétique d'une part, il y a des objets qui sont, et très clairement en fait on a une pratique qui est de l'ordre effectivement de cette collecte d'objets qui transparaît aussi à travers ce lieu et qui nous ramène en quelque sorte effectivement au collectionnisme. Alors si je présente cet ouvrage-là qui est un ouvrage d'Henri Codet qui date de 1922, c'est que c'est le premier à avoir fait un parallèle entre le collectionnisme et notamment aussi le collectionnisme pathologique et en même temps le métier de chercheur. Et c'est une des hypothèses que je voudrais tester de plus en plus, effectivement, c'est que, je dirais, derrière le chercheur, il y a d'abord un travail de collectionnement qu'on peut trouver, de collectionnisme qui peut déboucher, bien sûr, sur la constitution de bases de données, plus ou moins organisées, qui peut parfois aussi déraper, qui peut se transformer, etc., etc., et qui peut évidemment être constitutif de résultats. Alors Codet, qui a fait sa thèse en psychiatrie, travaillait sur le collectionneur médecin, en quelque sorte, qui cherche des beaux cas, etc. Mais très clairement, bien sûr, dans le cas qui nous intéresse, c'est cette même pratique qu'on pouvait trouver dans un certain nombre de cas. Et qui apparente en quelque sorte aussi, à travers le collectionnisme, à une sorte de capitalisme scientifique, c'est-à-dire de constitution d'un fonds qui, bien sûr, va enrichir la recherche, mais sur lequel on va accumuler. Et c'est un des points importants qu'on peut retrouver et qu'on a pu développer. C'est-à-dire que quand on regarde, et c'est un des points qui amène justement un chercheur à se différencier, quand on regarde les bibliothèques, on se rend compte qu'il y a toute une série de strates qui commencent souvent en fait avec la thèse, voire avec les premières recherches en master, et puis bien sûr qui peuvent s'accumuler, c'est-à-dire qui vont se développer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans de recherche, etc. Alors vous voyez à gauche, c'est quelqu'un qui était plutôt orienté anthropo et donc qui a fait beaucoup d'enquêtes, et il y a bien sûr toute une série soit de bandes vidéo qui vont être regardées avec en plus les appareils, donc l'enregistreur, etc. Et puis bien entendu aussi toute une série de dossiers. À une certaine époque où on faisait beaucoup de photocopies, bien sûr, on les garde, etc., parce qu'on ne sait jamais et parce que c'est sur base de ça qu'on constitue les choses. Et donc, on a cette stratification qui est très, très, très importante pour comprendre les choses et qui amène chez un certain nombre de personnes soit à épurer dans certains cas, et là on va y revenir un peu plus tard, avec des gens qui épurent à l'extrême, soit au contraire à tout garder. Et évidemment, tout garder, ça veut dire à un certain moment, justement, amener des piles à se former, etc. Alors ici, on n'est pas encore dans le pire, hein. Il y a des choses qui sont tout à fait cohérentes, mais bien entendu aussi des faits que cette information n'est pas toujours manipulable non plus. On la garde parce qu'on se dit que c'est important de l'avoir gardée, et parce que parfois on se dit qu'il faut aussi conserver ces données pendant un certain nombre d'années, etc. Mais très clairement, bien sûr, ça a une influence sur cet aspect qui est tout de même aussi, alors dans les cas qui nous ont intéressés, qui est tout de même toujours lié à une quinzaine de mètres carrés, 10 mètres carrés parfois, hein, c'est-à-dire la surface d'une pièce dans laquelle se concentre toute la vie intellectuelle, en quelque sorte, dans l'appartement. Enfin, encore que, hein, vous savez aussi qu'il y a des invasions jusque dans la chambre, etc., voire j'ai beaucoup de collègues. Et alors, bien entendu, il y a la stratégie de la résidence secondaire. On en a eu un avec, quand vous êtes bien sûr, dans certaines disciplines plus que d'autres, vous pouvez avoir jusque 15, 17, 20 000 ouvrages dans une résidence secondaire. Vous n'en gardez que 2, 3 000 à Paris, mais ça, c'est encore un autre élément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet aspect-là, on retrouve aussi des choses qui ne sont pas très loin du collectionnisme pathologique. C'est-à-dire, on garde, à la limite, d'un côté, c'est pour les preuves ou pour les sciences, mais en même temps, c'est aussi, on va garder pour d'autres raisons. Pour le cas où, c'est-à-dire, on ne sait jamais. En fait, on ne va sans doute plus jamais les utiliser, etc. Mais en même temps, voilà, c'est très rassurant de savoir ça. Ou bien, et ça, tous ceux qui ont reçu des tirés à part ou des ouvrages et qui possèdent encore 25 tirés à part du premier article qu'ils ont écrit il y a 20 ans, etc. Et qui, on ne sait pas, on va tout de même le garder parce que peut-être qu'un jour, je vais pouvoir le donner tout de même à quelqu'un. Et cette logique-là, en fait, on la retrouve dans du collectionnisme pathologique aussi, où en fait, l'amasseur compulsif est quelqu'un qui va faire des liens avec tout en se disant c'est toujours intéressant et en fait ne va pas pouvoir se séparer de ses objets. Et d'une certaine manière, c'est aussi, ça fait partie de ces éléments qu'on peut retrouver, qu'on voit incrustés, mais qui bien sûr amènent toute une série d'autres éléments, hein. C'est-à-dire des piles qui se forment à ce moment-là de plus en plus, puisque très clairement l'espace est limité. Alors, c'est ce problème de place et de rangement qu'on a pu observer de manière très physique, bien sûr, au niveau des documents classiques, on pourrait dire, donc du papier, des ouvrages, etc., mais qu'on retrouve beaucoup moins au niveau des ordinateurs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on retrouve la même chose au niveau, en revanche, des ordinateurs physiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui gardent aussi, soit par fétichisme, soit par leurs anciens ordinateurs. Ou bien leur disquette 3 pouces et demi, 5 pouces un quart, etc., etc. On n'a pas vu des bandes perforées, enfin et autres, mais très clairement le vieux Mac ou autre qu'on garde dans un coin parce que soit on se dit c'est grâce à ça qu'on va pouvoir lire un jour la disquette qu'on ne va finalement quand même plus jamais lire, mais qu'on garde au cas où, etc. Et donc qui amène aussi ce phénomène d'accumulation. Et en même temps, bien sûr, on retrouve partiellement, je dirais, mais je vais y revenir avec l'autre type, on pourrait dire, qu'on évoque, on retrouve partiellement ces éléments au niveau, bien sûr, du rangement sur le bureau qui est, en fait, le bureau de l'ordinateur, avec toute une série d'éléments qui sont plus ou moins classés, et pour lesquels j'aurais tendance à dire que... alors, le système numérique... À partir du moment où on entre dans la règle des fichiers, donne une apparence de bon rangement, on peut voir probablement des traces un peu différentes si on observe le bureau, c'est-à-dire la page d'accueil, pour lequel les choses sont parfois très très différentes en fonction des chercheurs et où on a des éléments qui peuvent être beaucoup plus fouillis en quelque sorte et qui peut-être, alors ça c'est une hypothèse que je fais, mais reflète en quelque sorte ce qui se trouve sur le bureau physique. Puisque, bien entendu, la plupart du temps, tous les bureaux physiques sont aussi constitués de piles, etc., dans lesquelles les gens se retrouvent. Et puis, on a parfois aussi des bureaux physiques qui sont impeccablement rangés et pour lesquels on va aussi voir des bureaux numériques qui sont très largement rangés.
Voilà, alors, juste pour prolonger ça, et je pense que cette hypothèse, on peut d'ailleurs l'assumer, qui est justement... Cette exploration aussi des environnements physiques, en fait, nous rend, nous alerte sur ce que l'on peut voir dans les environnements informatiques. De la même manière aussi que le fait d'avoir vu tous les petits objets qui sont le résultat de pratiques infraordinaires, si on ne les a pas vus avant dans les environnements physiques, nous sont difficilement accessibles dans les environnements numériques. Donc, finalement, il y a quand même cette migration de pratique et du coup aussi cette nécessité un peu d'aiguiser notre regard, enfin qui passe des bureaux physiques aux bureaux numériques, aux environnements numériques. Autre chose aussi, c'est ce que tu évoquais, avant de passer à la recherche directe, c'est cette tension étonnante entre l'accumulation, donc il n'y a jamais assez de place, mais en même temps la profusion de doublons. Et cette profusion de doublons des objets qu'on classe à différents endroits, dont on a des photocopies, etc., etc. Le livre qu'on a en 3 exemplaires, parce que on retrouve ça. Enfin, c'est quelque chose qui est amplifié sur l'ordinateur, où en fait les fichiers, alors ils sont doublonnés. Enfin, il y a des alias, etc. Enfin, on les a. Enfin, donc du coup, il y a une sorte d'amplification ou de radicalisation de certaines pratiques d'accumulation, et notamment ce doublonnage qui réussissait, je dirais, à vaincre aussi les contraintes ou les réticences qu'on pouvait avoir par rapport à des environnements physiques saturés, se déploie ou s'amplifie. Voilà. Alors, il y a, ça dépend des métiers, enfin, on a vu mais il y a des chefs de projet qui sont peut-être aussi des gens plus jeune que certains des enseignants-chercheurs qui avaient toute une carrière, mais pas toujours. En fait, le fait de travailler sur projet en particulier chez les plus jeunes, des médiateurs ou des concepteurs d'expos, etc., etc., fait que il y a peut-être moins une capitalisation d'objets qu'une extension d'un réseau de contacts et de références. Et donc, on sent très bien que du coup, dans certains cas, il n'y a pas tellement de pratiques d'accumulation, enfin, ou en tout cas, il y a beaucoup moins de pratiques d'accumulation, mais il y a une pratique de repérage intensif et avec constamment dans les entretiens, par exemple, la référence à des individus, des personnes qu'on a vues dans un séminaire, enfin, la fréquentation assidue d'un tas de réseaux, le repérage aussi. Alors, ça ne se traduit pas forcément dans les bookmarks, mais en tout cas, on a sa géographie intime qui est structurée par des références, des personnes, des moments et des mots-clés aussi, qui vont... parfois, les mots-clés, c'est l'entrée dans un projet par rapport auquel on va voir se déployer grâce à toute une série d'outils qui sont utilisés. Bon, enfin, la masse documentaire, mais qui est répartie sur le web, qui n'est plus collectionnée à la maison. Enfin, donc ça, c'est une chose. Et là, alors, dans certains cas aussi, on a une espèce d'inversion, du coup. C'est-à-dire chez ces chefs de projet qui passent d'une chose à l'autre, il y a l'idée de faire place nette, chose que je trouvais aussi beaucoup chez les biologistes, par exemple, qui ont l'habitude d'écraser tous les mails, enfin, ce qui est stupéfiant quand on les voit, ou quand quelque chose est terminé, vraiment d'en finir et de liquider pour passer à autre chose. Et il y a deux manières de procéder avec les logiques de projet. Il y a, on passe d'un projet à un autre et place nette, enfin, vraiment pour le projet suivant. Et puis, il y a aussi le fait de réutiliser tout le réseau ou d'accumuler tout le réseau plutôt des références ou des personnes ou des mots-clés qui sont associés à des projets pour faire comme une strate d'inspiration. Enfin, il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs qu'il est en période d'attention flottante où elle récupère l'inspiration de ses anciens projets, non pas par les documents qui sont systématiquement explorés, mais par le parcours, presque comme dans un cabinet de curiosité, de l'ensemble des références ou des séminaires auxquels elle avait assisté dans les projets précédents. Donc on trie le maximum, mais on garde quand même des indices de ce par quoi on est passé. Alors, chemin. Alors là, c'est juste, alors c'est beaucoup moins spectaculaire, évidemment, mais donc là, on voit presque rien. Mais c'est une personne qui est porteuse d'une hétérogénéité interdisciplinaire, justement. Elle est à la fois médiatrice, auteure, enfin, elle a des études scientifiques, et elle a une activité de chef de projet muséographique. Et en fait, elle a beaucoup de chemins, et elle garde trace des chemins. Elle a une mémoire des lieux numériques, et en fait, elle est confrontée en fait à une forme de collectionnisme, presque le collectionnisme des versions, et aussi une conservation des étapes de sa recherche documentaire, qu'elle intègre d'ailleurs parfois, dans certains cas, dans les livres qu'elle fait, dans les ouvrages qu'elle fait, où elle a fait un petit ouvrage où elle expose dans ce petit ouvrage sur l'écologie la trace documentaire, toutes les étapes documentaires qu'elle est passée en rentrant par mots-clés sur le site Multitude. Et après, elle suit le fil et elle l'expose dans un ouvrage qu'elle a fait. Donc il y a une esthétique de la recherche documentaire pour pouvoir aussi conserver à la fois la mémoire des lieux numériques, des chemins, des traces, où finalement on retrouve des problèmes qui ne sont pas entièrement réglés par le numérique ou par la recherche par mots-clés, mais qui cette maîtrise. Alors, les mots-clés sont fondamentaux dans ce type de démarche, et aussi des types de distinctions qui sont, par exemple, tout ce qui relève du travail de commande ou tout ce qui relève du travail personnel, tout ce qui relève du travail en cours, tout ce qui relève des archives, donc qui sont des divisions pour s'y repérer physiquement et temporellement. Et puis, il y a cette redoutable rubrique des téléchargements, qui est un peu de tout. Dans le cas d'une des personnes, 6 niveaux d'arborescence avec des doublons à tout niveau. Et puis, une plainte persistante qui vient du fait qu'on ne peut pas mobiliser, par exemple, des outils comme les post-it. Donc, finalement, ce sont des pastilles, mais qui sont sous-utilisées parce qu'elles ne conviennent pas quand même. Elles ne sont pas suffisantes pour différencier ce qui a été fait, ce qui est en cours, ce qu'on doit transférer à un autre, etc. etc. Donc, voilà.
Ben, globalement, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a forcément des pratiques qui vont être très très différentes en fonction de l'espace, et donc de l'espace du bureau de l'ordinateur, qui est tout de même relativement limité, même s'il semble offrir ces grandes perspectives. Mais par exemple, la logique post-it fonctionne moins bien, évidemment, que dans un grand bureau, etc. Alors, très clairement, en fait, ce qu'on peut observer, souhaite évidemment bien sûr poursuivre cette recherche parce qu'elle nous a semblé extrêmement riche. C'est très excitant aussi de pénétrer dans l'intimité d'un bureau de chercheur parce que on se rend bien compte qu'on est au cœur en quelque sorte de la machine à produire un certain nombre de documents, à produire de la connaissance et de voir comment les choses se concrétisent, etc. est vraiment fascinant. Alors c'est sûr qu'il y a, et très clairement on l'observe avec les chercheurs ou des médiateurs plus âgés, quelque chose qui est de l'ordre du pré-numérique a commencé bien sûr à une époque où justement soit les premiers ordinateurs commençaient mais il n'y avait pas du tout internet, etc. Soit où il n'y avait pas encore d'ordinateur parce que bien sûr c'est aussi un des domaines du possible et où très clairement ce qui a commencé c'était de l'enquête de terrain, donc des dossiers à accumuler, etc. Et très clairement, c'est ce pré-numérique qui va aussi influencer le post-numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses vont se poursuivre sans doute de cette manière-là. Avec le post-numérique, on aboutit évidemment, en revanche, à un certain nombre de pratiques, comme Joël l'a évoqué, qui vont se focaliser uniquement sur cette recherche du numérique, qu'on observe avec des étudiants, c'est-à-dire qui vont d'abord commencer leur recherche via Wikipédia, et même pour des chargés de projet qui vont travailler pour la Cité des Sciences, pour faire des grosses expos, etc. On va d'abord envisager toute une série d'éléments très, très, très simples, ce qui va être un réflexe qu'on ne va pas trouver chez d'autres. Et entre ces deux espaces-là, bien sûr, il y a toute une série de solutions hybrides qu'on a pu observer. C'est-à-dire que très clairement, à travers les 15 entretiens qu'on a eus, on n'allait pas non plus immédiatement voir un profil ou deux profils qui allaient se présenter, mais quelque chose d'hétérogène et en même temps qui est relativement limité, puisqu'on n'a pas du tout développé de recherche avec, par exemple, beaucoup de chercheurs plus spécialisés dans les sciences exactes, etc., qui auraient sans doute développé potentiellement aussi d'autres approches aux documents. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'autre entrée en quelque sorte, qui peut être celle du collectionnisme, et qui amène la distinction entre, je dirais, le chasseur-cueilleur qui va uniquement cueillir en quelque sorte, cueillir et récolter, et sans se soucier en quelque sorte aussi des stocks, et puis celui qui, en revanche, a cette pratique du collectionnisme, qui a peut-être connu la disette à une autre époque, ou bien simplement qui est dans un habitus où il garde les éléments, où il peut construire sur des stratifications, et qui amène justement à conserver, pour le cas où, à faire des réserves, à faire des copies, 3, 4, 5 copies, etc. Tandis que d'autres, au contraire, je dirais, ont cette... se fondent peut-être sur cette logique de l'abondance que semble présenter Internet en adoptant justement cette idée du cueilleur de baies qui ne peut pas les stocker en quelque sorte. Et c'est aussi évidemment, je dirais, deux aspects un peu caricaturaux qu'on ne va pas trouver immédiatement comme ça, mais qui semblent un peu départager les pratiques de manière générale. Voilà en quelques mots.
Alors... Et juste pour dire, pour introduire, il y a des tas de choses dont on ne parle pas, mais on sent bien qu'il y a des statuts professionnels qui jouent.
Oui, l'âge, bien sûr.
La discipline, les conditions de travail, les endroits aussi où si on dispose d'un bureau, un bureau privé, etc., etc., et les déménagements qui ont été subis ou assumés, qui interviennent lourdement dans les périodes de changement.
Merci beaucoup.